SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission. Donc une heure de relaxation, de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Nous sommes le 18 mai et aujourd'hui notre rétrospective s'intéresse à Facebook. Valentine Sabourot nous emmène aux côtés donc de l'entreprise de Mark Zuckerberg pour ses premiers pas en bourse. C'était le 18 mai 2012, jour où la prudence des investisseurs en a surpris plus d'un. Récit avec les archives de l'Institut national de l'audiovisuel et du journal Les Échos.
Right now. En cet instant, tout porte à croire que nous vivions un grand moment. La cotation, c'est une étape importante de notre histoire.
Alors qu'on attendait un événement historique, le monde perplexe assiste à un semi-flop embarrassant. Le 18 mai 2012, l'entrée en bourse de Facebook ne se passe en effet pas tout à fait comme prévu. Malgré une introduction en fanfare, l'action fixée à 38 dollars ne gagne que 0,61% de sa valeur dans la journée, une déception qui n'aura cependant qu'un temps. Fondée le 4 février 2004 par Mark Zuckerberg et plusieurs camarades, le Facebook.com n'est au départ qu'un trombinoscope destiné aux élèves de Harvard. L'outil de communication rencontre néanmoins suffisamment de succès pour s'étendre progressivement à d'autres universités, puis aux écoles secondaires, aux employés de certaines entreprises. Finalement, en 2006, tout détenteur d'une adresse électronique de plus de 13 ans peut ouvrir un compte. Résultat, en août 2008, le réseau social compte déjà 100 millions de membres. 4 ans plus tard, en 2012, malgré les premières réticences passées de Mark Zuckerberg, Facebook s'apprête à plonger dans le grand bain. Sa taille les pousse et l'entreprise se porte plutôt bien, en témoigne le dossier qu'elle présente en début d'année à l'autorité régulatrice Security and Exchange Commission. 3,71 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2011, un bénéfice net de 1 milliard, 845 millions d'utilisateurs, dont 483 actifs quotidiennement, c'est prometteur. Seul bémol, les 85% de revenus tirés de la publicité. C'est beaucoup dans un marché qui se tasse. François Chollet, Montségur Finance pour France 2.
Je crains au contraire qu'il y ait quelques déceptions dans les publications à venir qui viennent un petit peu refroidir les investisseurs dans un contexte où aux États-Unis, la conjoncture économique est en train de se tendre. Et on voit bien que le marché de la publicité, qui est un des marchés moteurs pour Facebook, est un marché qui devient de plus en plus difficile.
Le 18 mai néanmoins, tout est prêt. Depuis la Silicon Valley, Mark Zuckerberg mouille même le hoodie devant ses employés et la presse invitée.
Face à ses salariés en délire, un multimilliardaire à capuche s'offre une arrivée de star sur les marchés financiers. C'est le petit matin en Californie, devant le siège de Facebook. Mark Zuckerberg, 28 ans, actionne la cloche qui ouvre la séance boursière des nouvelles technologies.
421 millions d'actions sont mises sur le marché au prix de 38 dollars. C'est une opération colossale à 16,02 milliards de dollars, valorisant l'entreprise à 104 milliards. Les ordres, hélas, peinent à passer. Coup du sort, la plateforme du Nasdaq semble avoir du mal à gérer le nombre d'opérations et c'est avec une demi-heure de retard que tout commence. L'action monte finalement à 12% pour finir à plus 0,61% à la clôture. C'est une déception malgré 576 millions d'échanges. Plusieurs jours plus tard, Marina Alcaraz, expert marché, analyse pour le journal Les Échos.
Alors, il faut savoir aussi qu'il y a une valorisation extrêmement élevée pour Facebook, enfin qui peut paraître extrêmement élevée, puisque 100 fois à peu près les bénéfices 2011, 27 fois les revenus 2011, mais ce n'est pas 2011 du tout qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, c'est 2012, 2013, voire 2017, 2018, exactement. Et chaque analyste, en fait, chaque gérant, chaque investisseur qui achète du site Facebook, c'est sur l'avenir qu'il parie.
L'avenir immédiat, c'est d'abord une action qui plonge à 18 dollars en septembre 2012, avant de se redresser avec des perspectives qui s'éclaircissent. En octobre 2012, Facebook franchit ainsi le milliard d'utilisateurs mensuels, puis la pub sur mobile décolle, et les rachats se multiplient avec WhatsApp, Oculus VR, Jiffy et bien d'autres. En 2021, enfin, l'entreprise change de nom pour devenir Meta, un géant de la tech qui se prévaut désormais d'une action à 470 dollars, un chiffre plus de 12 fois supérieur au prix de la première action Facebook. La réussite est donc là, même si elle ne peut cacher les dérives de l'entreprise, notamment dans l'utilisation qu'elle fait des données personnelles et la désinformation rampante qui investit ses pages. Plusieurs actions de justice sont d'ailleurs en cours.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Rose de cristal, crissette et sa mollisse. Amour sans rival, murmure des délices. Il prend ma taille ronde et ronronne sur elle. Pour jouer, je lui gronde des menaces cruelles. Que la vie est belle, quelquefois pour un.
C'était Zao de Sagazan, qui a d'ailleurs brillé à l'ouverture du Festival de Cannes. Et cette chanson a que la vie. Eh bien, allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour le sport. Vous écoutez le français sur Radio SBS. Journal des sports et une petite nouvelle, le cyclisme pour débuter ce journal des sports. La superbe, et je ne mâche pas mes mots, victoire de Julien Alaphilippe dans le Tour d'Italie, dans le Giro. C'était jeudi soir, Julien Alaphilippe devient le 105e coureur de l'histoire du cyclisme à remporter une étape sur les trois grands tours. Je vous rappelle, le Français est également double champion du monde et il a porté le maillot jaune sur le Tour de France. Eh bien, Julien Alaphilippe, heureux de cette victoire, on l'écoute.
Bramati, il me demandait de me relever pour attendre le groupe et j'ai dit non, aujourd'hui je ne me relève pas. Et j'ai bien fait.
C'est le grand Julien.
Ouais, j'étais dans une bonne journée. Pour aller chercher des victoires comme ça, je pense qu'il faut être dans une grande journée et j'ai rien lâché. Donc ouais, je suis vraiment content. Il y a quelques jours, j'ai loupé les premiers jours d'école de mon fils et voilà, c'est pas pour rien, je suis ici et je vais pouvoir lui ramener ça.
Julien Alaphilippe, donc 105e coureur de l'histoire, a gagné deux étapes sur un grand tour de cyclisme. Il est également le 10e français à avoir fait ce record. Allez, on va parler maintenant de football, reportage en ce samedi. Et difficile de trouver sa place dans le football depuis 2023. Footsider, une application, tente d'aider les jeunes déçus, donc du ballon rond, à séduire des clubs professionnels ou amateurs. L'application séduit de plus en plus d'acteurs. 120 000 footballeurs et prévoit bientôt de s'exporter en Afrique. Reportage.
Oui, il y en a quelques-uns qui sont très intéressants.
Nelson Almeida travaille pour les Girondins de Bordeaux depuis plusieurs années. Il a l'œil pour détecter les talents. Et comme une quarantaine d'autres recruteurs de clubs français et étrangers, il a répondu à l'invitation de l'application Footsider qui organisait déjà sa 5e journée de détection depuis sa création.
Ce qui est bien, c'est que ce genre d'événement, on a une visibilité sur pas mal de joueurs. Ça peut être un tremplin. Pour certains, ça le sera, c'est une certitude.
Face aux recruteurs, ils étaient une centaine à tenter de se faire remarquer sur un terrain de l'Est parisien. Ibrahima a fait tout ce qu'il a pu, arrivé de Côte d'Ivoire il y a un peu plus d'un an. Il joue sans licence en Ile-de-France et se cherche un nouveau point de chute.
J'ai venu faire essai maintenant pour tenter ma chance. C'était bien passé. Moi, mon rêve, quel club qui veut de moi, j'ai pas, pas de soucis.
Ces journées de détection sont l'un des piliers du fonctionnement de Footsider, une application lancée début 2023, dont Riyad Mouhib est l'un des cofondateurs.
Ce projet-là, il vient d'un constat depuis plusieurs années où se posait la question comment faire pour aider les jeunes joueurs de football à multiplier leurs chances pour essayer d'être repérés, mais aussi aider les jeunes joueurs à trouver des clubs vraiment près de chez soi.
La star Ronaldinho et l'international algérien Yacine Brahimi sont aussi cofondateurs de ce réseau social qui a déjà séduit 125 000 utilisateurs et 1 500 clubs professionnels ou amateurs. Présent lors de la journée de détection, Gabriel, 17 ans, a tout de suite été emballé.
C'est simple, en gros, c'est une application, on peut mettre les vidéos de soi. Moi, je suis défenseur central, donc je peux mettre des relances, des interceptions, mais si on est attaquant, on peut mettre ses buts. En fait, plein de vidéos de soi qui nous mettent en valeur. Et après, il y a des gens qui sont dans la cellule de recrutement pour voir après quel profil peut être intéressant. C'est une porte en plus, en fait.
Un nouveau moyen de se démarquer dans un univers ultra concurrentiel. Défenseur du PSG et champion du monde avec les Bleus en 2018, Presnel Kimpembe soutient le projet.
C'est pour tous ces petits jeunes.
C'est compliqué. Après, on est tous passés par là. Avec l'application, ils ont la chance aujourd'hui de pouvoir espérer.
Loin du faste de la Ligue des Champions, les laissés pour compte sont nombreux. Et le réseau social prévoit aussi de les aider sur le continent africain.
On a beaucoup de demandes en Afrique. L'objectif, il est double. C'est d'aider les clubs locaux à trouver des joueurs. Parce qu'il y a plein de joueurs qui jouent à la plage, dans la rue, etc. Mais on veut lutter aussi contre les faux agents et les faux intermédiaires. Ça va être un message important à expliquer aux jeunes joueurs africains.
Footsider a d'ores et déjà prévu une journée de détection à Casablanca au Maroc début juillet. L'application devrait ensuite être lancée sur le continent à la fin de l'année, au plus tard début 2025.
J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve. J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo. Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo. C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée. Je vis loin du feutré et des lumières tamisées. Dans tes ruelles cruelles, ou tes boulevards affliques. Dans la musique truelle des silences.
Gaël Faye, Paris, Métèque, une de mes chansons préférées en ce moment. Allez, courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Wilfried Nsondé, bonjour.
Bonjour Marianne.
Racontez-nous pourquoi vous êtes venu à Melbourne.
Je suis venu présenter Hélosphéraphi des Abysses, qui est un roman qui est apparu en 2022, où je, suite à une mission océanographique sur la goélette Tara, donc j'ai découvert les mondes sous-marins, enfin une partie infime, mais voilà. Le plancton surtout, et j'en ai fait un roman. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la littérature que dans un roman, les personnages principaux sont deux planctons et un bout de plastique. Et apparemment, ça plaît, puisque voilà, j'étais invité en Algérie, mettant, j'ai eu le loisir de le présenter en Australie. Je pense que ça intéressait les gens, donc oui, ça me plaît, ouais, d'essayer de changer de perspective pour réfléchir sur notre relation à ce qui vit.
Oui, pardon, j'aurais dû commencer par ça. Wilfried, vous êtes écrivain français. Excusez-moi, j'ai même pas présenté votre titre. Ce dernier livre, il fait partie de plein de livres que vous avez écrits. Vous en avez écrit plus d'une dizaine au total et vous avez reçu près de 20 prix littéraires. Selon vous, quelle est la clé de votre succès ?
Ouh, alors c'est une question difficile et piège parce qu'on sombre vite dans l'égocentrisme. Consciemment, j'aime bien, je suis très curieux, donc j'aime que mes romans ne se ressemblent pas. Donc je change de point de vue, je change de thématique. Ça a l'air d'intéresser, ça tombe bien parce que moi ça me plaît, c'est même nécessaire. Et je me rends compte que j'ai une sociologie déjà quand même assez particulière, ce dont je n'étais pas conscient, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 4 ans, donc dans un univers, un continent nouveau. Puis voilà, après mes études à Paris, je suis allé en Allemagne, j'ai fait beaucoup de métiers dans ma vie, et je pense que voilà, ma curiosité est venue de là. Donc il est très possible qu'il y ait quelque chose, ne serait-ce que dans mon parcours, qui intéresse. Et tous ces mélanges continentaux, culturels, aussi le fait d'avoir grandi en banlieue, hein, parce que la banlieue, c'est pas que le lieu de toutes les délinquances et de brûler les voitures. Enfin, moi, je l'ai connu, c'était un lieu de rencontre. Mes camarades, dès le bac à sable, avaient des parents qui venaient du monde entier. Il y avait de confession juive, d'autres musulmans, des animistes, des athées. Pour moi, la diversité est quelque chose de tout à fait banal. Voilà. Et donc, on retrouve ça dans mes livres, diversité, voyage. Et peut-être que oui, voilà, la clé de mon succès serait quelque chose de fondamentalement inconscient, mais de particulier de par mon parcours.
Oui, vous avez une diversité dans vos livres, vous avez une diversité dans votre vie, vous l'avez dit, vous avez vécu dans l'Hexagone, en ce moment vous vivez à Lyon, vous êtes né au Congo, vous avez vécu à Berlin, à Mayotte, donc la France aussi, mais pas l'Hexagone. Vous écrivez des romans, vous avez aussi écrit un livre pour enfants, vous avez écrit un livre scolaire. Toute cette diversité, elle est prévue d'avance ou en fait ce sont des opportunités de vie? Par exemple, ce livre sur le plancton et le plastique, vous aviez prévu de l'écrire? Oui, c'est imposé à vous.
En termes de diversité d'écriture, j'ai même écrit un livret théâtral dans un opéra baroque de Charpentier. Compte tenu de cette diversité-là, des gens me proposent des projets eux-mêmes variés et divers. Quand je décide de participer à une mission océanographique de la Goélette Tara, sincèrement, je ne sais pas ce que je vais en faire.
D'accord.
J'espère que ça m'inspirera un livre, mais je n'en suis pas sûr. Voilà, j'aime bien me mettre dans cette situation. Bon, bah voilà, j'y vais, mais je ne sais pas encore. Ah bon, j'avais quand même dit à la Fondation Tara que j'aimerais en faire un livre, mais je ne sais pas si ça allait être un récit de voyage, un recueil de poésie. Et donc, voilà, j'aime bien me mettre un peu nu, être poreux à ce qui se passe, et on verra ce qui se passe ensuite. Voilà. Et en l'occurrence, comme je l'ai dit aux Australiens aujourd'hui, c'est en découvrant le plancton, et pour la petite histoire, c'est la deuxième nuit, donc je suis de quart. Bon, parce qu'un écrivain en mission océanographique, ça sert à rien. Donc ça sert au moins à ne pas dormir la nuit pour que les autres dorment. Et le marin avec qui j'étais de quart, à un moment donné, me dit, tiens, ben viens. Et tout l'arrière du bateau était illuminé. On aurait dit qu'on avait mis vraiment de la poussière d'étoiles sur la mer. Il me dit, voilà, le plancton est là. Et c'est un spectacle tellement fascinant, troublant, puisque j'avais toujours pensé que le plancton était invisible. Eh ben non, quand il veut, il s'illumine. Et c'est là que je me dis, mais c'est incroyable. Et voilà, et donc la fascination a commencé à naître là. Et c'est pour ça que j'aime bien être en immersion. Là, j'étais en complète immersion, on était perdu au milieu du Pacifique. Et voilà, et un lien s'est créé. Alors, ceux qui nous entendent vont dire, mais non, mais bon, le plancton, il suffit de remuer un peu l'océan et il brille. Oui et non. Parce que moi, j'ai eu pendant 5 semaines, quasiment chaque jour, chaque nuit, de la bioluminescence intense. Et une fois que j'ai quitté le bateau, Tara a continué 1 an et demi sa mission. Et quand j'ai revu les marins à Lorient, ils m'ont dit, mais c'est incroyable, depuis que tu es parti, on n'a quasiment plus eu une bioluminescence aussi intense. Voilà. Comme si voilà, le plancton au large du Chili était venu me murmurer à l'oreille, il faut que tu écrives sur nous.
Oui, parce qu'on peut aussi voir du plancton et ne pas publier un ouvrage derrière. Donc il y a quand même ce talent, votre profession qui sont rentrés en jeu pour rédiger ce livre. Est-ce que vous avez déjà des projets pour la suite, des idées, une inspiration?
Oui, mais là, je suis en train d'écrire un roman qui va se passer à Paris dans les années 30, mais je n'en dirai pas davantage. Mais dans la même veine que Et le Séraphie des Abysses que j'ai présenté ici à Melbourne, en novembre, je vais faire une résidence en Amazonie péruvienne. Donc voilà, là, ça va être 3 semaines d'immersion dans la jungle.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Reconnu la voix de l'impératrice Meda Igual, cette chanson qui fait partie de notre sélection musicale. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 140, je suis comme d'habitude avec Nathanaël Bloch. Nathanaël, bonjour.
Bonjour Christophe.
On va parler anglais aujourd'hui parce que nous avons un guest avec nous, un invité. So we are going to speak in English. I'm letting you, I want you to introduce yourself, it's probably better. You are from RMIT, but you're the head of European studies. Explain to us exactly your role.
Good afternoon. My name's Bruce Wilson. I'm the director of the European Union Centre of Excellence at RMIT University. We've had an EU centre at RMIT for some 15 years, and we have a particular role in helping Australians to understand more about the European Union, but also trying to build partnerships between businesses, academics, community organisations and their counterparts in the European Union.
It's a job and a half.
It's a fantastic job.
Nathanaël, if you want to start the questions.
Me, Bruce, I will begin with something very topical that happened yesterday in Europe. With the shooting in Slovakia with FICO. Do we know more about it? But above all, it's kind of a reminder that some wars in Europe in the last century began also with some assassination tentative.
In that part of the world.
In that part of the world, exactly. Mm-hmm. So what does it say about the level of violence in politics in Europe and the extremism?
Unfortunately, I do not know any more than is what is available in the public news. So that's a quick answer to the first part of your question. But on the second, I think over the last decade, we have seen a range of acts described from time to time, particularly violent. I'm not persuaded that this is a harbinger to anything more than another one of those moments when there's a real jolt that, yes, something like this can happen in Europe. I'd be surprised if this led to something more far-reaching than being regarded as a terrorist act and dealt with accordingly.
But it could show that Europe has progressed in the last 100 and so years, because something like this 100 years ago created a war. Today, it's not going to create a third world war. We can safely say this. But there is a gap here. You can see there is progress between how Europe was 100 years ago, all the work that's been done for this, and then now.
Absolutely. And of course, that is the whole point of the European Union. And we teach about the European Union at RMIT, and we start with the very simple proposition that the Second World War was the second war within 30 years in Europe that caused enormous devastation. There was a very concrete choice made by European leaders that they never wanted that to happen again. And there was a very clear process to achieve that. They began by putting the French and German resources for making war under the control of the same entity, the European Coal and Steel Corporation. It was set up so that neither Germany nor France could make weapons of war to use against each other. And that principle of promoting peace has been at the heart of the European project for the last 70 years.
But what I think we also relate to this is we have the European elections coming up very shortly. It's a bit of a crucial time. European elections have been disregarded in the past as, at least from the French side, as a sideways election. But there's an extra focus this year on them because the politics is going a bit on the right side of the politics at the minute all across Europe, something we've debated a lot here. Is it something you feel in your studies?
It's very interesting. And yes, certainly all the indications are that the vote for parties on the right will increase. Will it increase to the point where it has a significant impact in European politics? I don't think so. We expect that the control of the European Parliament and hence of the European project will firmly remain in the hands of the centre-right and the centre-left, as it has throughout the whole life of the EU until now. As they do at the present time, they will probably rely on a third source of support. It is at the present time the Liberals. It will probably still be the Liberals, but in a reduced level than they have at the present time. So, I mean, the politics of Europe over 75 years is not constant. At different times, there have been clearly moments of crisis. In fact, one of the things that's often said about the development of the European Union is that the biggest steps are taken in times of crisis. That if things are kind of just moving along reasonably well, people tend to let things lie. But the momentum for the expansion, the enlargement, of course, we all need to remember that until 2004, the European Union was really the Western European Union. You mentioned Slovakia earlier. It's only been a member of the EU for less than 20 years. And that is the case for a range of other East European nations. Even 2013, the most recent member to join Croatia. Mm-hmm. So there is an ebb and flow.
And if we look at who's knocking at the door as well. They all from that part of the world as well.
Absolutely. The Balkans. It's very interesting when you mention the Balkans because Serbia is probably the first on that list. Their recent engagement with the Chinese President Xi Jinping probably doesn't help their cause, but we'll see.
You mentioned Central Europe and some of the Western Balkan countries. A couple of days ago also, we celebrated the 20th anniversary of new countries entering the EU in 2004. We always quote Poland as a good example of economic development through and thanks to EU, since they enter EU. What can we say for the countries who entered the EU in 2004? Is it a success, according to you?
That's a really good question. And I think the first thing to be clear about is the criteria. What criterion would you use to make that judgment? If you're talking about the economy, I think it has to be unequivocally said that their membership of the EU is a success, because in every one of those new members, there has been an enhancement of their economic standing, both in terms of their relative GDP, but also the actual character of the economy in those countries. Is it a project that's completed? Of course not. They're on a journey. But I think it's very straightforward to say that they have made more progress through being members of the EU than they would have had they not been. On other questions to do with democracy, for example, this is a more complex question. And I'd point to the fact that two other members of the European Union, Spain and Portugal, were under fascist control until 50 years ago. They both joined the European Community, then the European Union, within 20 years of the end of
1986,
the end of fascism. Even now, would we say that Spain and Portugal have developed their democratic processes to the point where they are fully fledged members of the EU? Do we expect former communist countries to be fully fledged democracies within 20 years. You're asking a lot. You've got leadership in all of those countries right now who learnt their political ways, whose early experience of government was under authoritarian rule. It's a big ask for them to be now expected to operate in the same way that, for example, the Prime Minister of the United Kingdom would.
Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Stromae, papa, où t'es? Chanson mythique du chanteur belge. Allez, et si on parlait d'immigration dans notre Histoire cachée, notre podcast d'Histoire cachée par Grégory Pless.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui et dans les 4 prochains épisodes, on va s'attaquer à un très gros morceau, l'histoire de l'immigration, parce que c'est une composante essentielle de ce pays, qu'elle l'a structurée à bien des égards. Et comme d'habitude, pour en discuter, nous avons le plaisir d'échanger avec l'historien Romain Fati. Bonjour.
Bonjour Grégory.
Alors, je le disais, l'immigration, c'est vraiment une caractéristique essentielle de l'Australie. C'est un pays qui rentre, à l'image par exemple des États-Unis, du Canada ou encore de l'Argentine, dans la catégorie des pays qu'on appelle des pays dits d'immigration. Et de fait, rappelons que la population originelle de l'Australie, ce sont les aborigènes. Ils ne représentent aujourd'hui qu'un peu plus de 3% de la population, ce qui signifie que tous les autres sont soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés. Alors, cette immigration, elle a connu différentes périodes, elle a été plus ou moins accueillante, et donc on va décliner cette histoire à travers, comme je vous le disais, 5 épisodes qui vont en gros correspondre à différentes périodes de l'histoire de l'Australie. Et dans le premier que vous écoutez en ce moment, eh bien, on va s'intéresser au tout début de l'Australie coloniale. Et donc, ça va couvrir une période qui commence avec l'arrivée des premiers colons britanniques, le 26 janvier 1788, jusqu'au moment où l'Australie va devenir une fédération en 1901. Alors, Romain Fati, sur cette toute première période, donc les colons arrivent le 26 janvier 1788. Et avant vraiment de rentrer en détail sur la manière dont l'Australie commence à être peuplée par des Européens, une première question, pourquoi l'Angleterre a tenu à coloniser l'Australie, un pays à l'autre bout du monde où, au premier abord, il n'y a quand même pas grand-chose, hein, c'est un grand désert. Qu'est-ce qui a intéressé les Anglais à venir ici?
Alors, je vais vous répondre en deux temps. Le premier point que je veux faire, c'est insister sur l'importance de l'histoire de l'immigration en Australie. C'est-à-dire que chaque pays a des courants historiographiques importants. En France, par exemple, on étudie énormément l'histoire de la Révolution. Aux États-Unis, on étudie énormément la guerre civile américaine, la guerre de sécession. En Australie, ce qui a préoccupé les historiens depuis plusieurs générations, c'est l'histoire de l'immigration. Maintenant, je vais répondre à votre question plus directement. Pourquoi le Royaume-Uni décide-t-il de coloniser l'Australie en 1788? Il y a plusieurs raisons. Et la première, c'est que, en fait, il faut rappeler que la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, des 13 colonies américaines, fait que le Royaume-Uni n'a plus d'endroit pour déporter ses prisonniers. Vous allez me dire, mais quel est le lien entre les États-Unis et l'Australie? Eh bien, pendant assez longtemps, les 13 colonies britanniques aux États-Unis, enfin, ce qui sont devenus les États-Unis, accueillaient non seulement des colons, mais aussi des prisonniers britanniques et évidemment de très nombreux esclaves, issus de la traite transatlantique. À partir du moment où les 13 colonies disent aux Anglais, on en a marre, Eh bien, les Anglais se retrouvent dans une situation où la population carcérale anglaise explose. Pourquoi? Parce que c'est une époque, fin du 18e, tout le courant du 19e, où les peines dans le système pénal anglais sont excessivement lourdes. Je crois qu'il y a à peu près plus de 200 motifs pour lesquels vous pouvez être condamné à mort. Et vous avez des milliers et des dizaines de milliers de prisonniers qui s'accumulent dans des bateaux prisons, des prisons flottantes autour de l'Angleterre, ce qui pose tout un tas de problèmes évidemment sanitaires. Et donc, vous avez ce problème de la population carcérale. En parallèle de ça, on est dans le grand moment des impérialismes, hein, en particulier l'Empire britannique et l'Empire français qui se livrent une compétition à couteau tiré pour coloniser le plus d'endroits dans le monde. Et un des derniers espaces pour la colonisation, c'est évidemment le Pacifique. En 1770, donc 18 ans avant de commencer cette colonisation, les Anglais avaient déjà envoyé un navire pour repérer un peu ce qui s'était passé sous le capitaine Cook en 1770. Et donc, il faut attendre la sécession américaine, la déclaration d'indépendance de 1776, et quelques années pour que les Anglais se disent « bon, il faut ouvrir une nouvelle colonie ». Et par ailleurs, c'est un moment où, comme je vous l'ai dit, l'expansion coloniale est à son comble, donc l'Australie apparaît comme une solution. On va à la fois régler notre problème de surpopulation carcérale et à la fois ouvrir un nouvel espace colonial.
Je vais revenir dans un instant sur le rôle de la France dans cette affaire, mais sur le point que vous avez noté au début, c'est-à-dire la surpopulation carcérale en Angleterre, et je vais faire preuve d'un grand cynisme, mais l'Angleterre du XVIIIe siècle était assez différente de celle d'aujourd'hui. Est-ce que vous mentionniez des peines extrêmement lourdes? Est-ce que pour régler ce problème de surpopulation, les autorités à l'époque n'auraient pas pu régler le problème, si j'ose dire, en allant encore plus loin et en condamnant à mort un certain nombre de délinquants, de criminels, pour faire de la place dans les prisons? Je sais que c'est horrible, mais je pose la question.
Oui, alors c'est une bonne question. On est dans un moment de l'histoire où la punition, le châtiment corporel évolue. Hein. Ça, Michel Foucault l'a montré. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des condamnés à mort en Angleterre qui sont exécutés, mais généralement, ces peines ne sont pas appliquées. Elles sont appliquées dans le cas de crimes très grave, de crimes de sang, de tentatives de régicide, etc. Mais de manière générale, le système carcéral n'étant pas fait pour accueillir une population très importante, or le contrôle de la population s'effectuant par des mesures très dures sur « bon, bah, si vous voulez que ce soit du pain ou un cheval, vous serez condamné à mort parce que le vol doit être exclu de la société telle qu'elle est conçue à l'époque ». Et donc, si vous voulez, avec la multiplication des crimes, parce que c'est un moment où la population anglaise grandit, c'est un moment où la population britannique également transitionne des campagnes vers les milieux urbains, et donc avec une pauvreté attenante qui se développe via le salariat et l'exploitation à l'époque, vous avez tout au long du 19e siècle hein, une population qui est de plus en plus victime, entre guillemets, de sa situation socio-économique, ce qui fait que la prostitution se développe, les vols se développent, les petits crimes se développent, et donc vous n'allez pas exécuter plusieurs milliers, en fait plusieurs dizaines de milliers de personnes par an. Donc, à partir, et c'est très tôt en réalité que ça se passe, hein, ça se passe avant ces phénomènes que j'ai décrits, dès 1717 de mémoire, vous avez le Transportation Act au Royaume-Uni qui autorise la déportation de personnes condamnées parce que c'est un moment où, disons, la compétition commerciale entre les empires s'accélère. Et par ailleurs, la traite, hein, l'esclavagisme, c'est compliqué, ça coûte énormément d'argent. En plus d'être un système absolument horrible, évidemment, mais au lieu de tuer vos propres sujets, eh bien, vous pouvez régler votre problème carcéral et à la fois votre ambition coloniale en les déportant et en leur donnant une chance, c'est-à-dire la potence ou alors la déportation. Ça peut être une déportation à vie, ça peut être une déportation qui va durer une dizaine d'années, et puis après vous allez devenir libre, mais pendant ce temps de déportation, vous n'avez pas le droit de revenir en Grande-Bretagne sous peine d'être exécuté. Donc, en fait, c'est un système de déportation organisé qui est à la fois un système de déportation des criminels, bien que les crimes soient assez faibles, enfin, ça, on peut le discuter, et c'est aussi un système qui contribue à l'expansion de l'Empire britannique au XVIIIe et en particulier au XIXe siècle.
Alors, cette colonisation britannique, elle se passe dans un contexte que vous avez évoqué un peu plus tôt, celui d'une course à la conquête du monde, en gros, entre la France et l'Angleterre à l'époque. Quand James Cook arrive pour la première fois en Australie, c'est en 1770. Le début de la colonisation démarre quasiment 20 ans plus tard. Pourquoi, entre-temps, la France n'a pas essayé de s'y implanter, ou peut-être a-t-elle essayé, mais enfin, comment se fait-il que l'Australie ait été une colonie britannique et non pas française, alors que les Français étaient également pas mal présents dans cette partie du monde?
Oui, effectivement, c'est une très très grande question. Alors, il faut rappeler que quand le capitaine Cook arrive à Botany Bay en Australie, il n'est pas tout seul. Il y a un Français, Monsieur de la Pérouse, qui est également présent, parce que, évidemment, la monarchie française, en compétition avec la monarchie britannique, talonne l'entreprise d'exploration du Pacifique britannique. Et comme on le disait, il y a une grande compétition entre ces deux monarchies. En 1772, fait peut-être peu connu de nos auditeurs, Monsieur de Saint-Aloire, un navigateur français, débarque en Australie occidentale et glisse un écu d'or dans une bouteille et prend possession de l'Australie occidentale. Et cet écu, hein, on peut le voir au musée maritime de Fremantle. Donc, la France, comment dirais-je, prend possession de l'Australie occidentale, mais ne fait rien avec. Parce que c'est pas vu comme un endroit assez fertile, parce que l'entreprise de colonisation qui va se produire au 18e et au 19e, finalement, va se produire dans des espaces plus proches de la France, en Afrique en particulier. Et donc, si vous voulez, la prise de possession qui est faite, elle est pas actée. Et ce qui se passe aussi en France, c'est que quand l'Australie vraiment commence à coloniser, en 1788, la France est dans une période pré-révolutionnaire. La Révolution interrompt certains voyages d'exploration et tout projet de colonisation, en réalité, dans cette zone du monde, puisque les ressources sont consacrées à essayer de sauver la Révolution, parce que vous avez une guerre de coalition qui se livre où les monarchies européennes ne veulent pas d'une République et de la Révolution française. Si bien que quand Napoléon reprend les expéditions vers cette zone du monde, vers le Pacifique et vers l'Australie, les Anglais ont déjà bien avancé, la colonisation est suffisamment implantée, si bien que voilà, vous avez beaucoup de noms français en Australie occidentale et en Tasmanie et même en Australie méridionale, mais l'intérêt a été plutôt scientifique, parce que la France finalement arrive trop tard, au début n'a pas l'intérêt de développer cette colonie, et puis quand il y aurait eu intérêt de le faire, la France s'occupe déjà d'autres territoires. Par ailleurs, il faut rappeler que la Nouvelle-Calédonie, pour les Français, est une colonie à l'origine de déportation également pénitentiaire. Hein. Donc le modèle britannique en Australie est aussi un modèle qui est mis en œuvre par d'autres empires coloniaux, dont la France, dans d'autres espaces du monde.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Sous la peau comme une enclume, parfois, on me dévisage, on me salit le paysage, mais je m'assume comme toi. Je peux être rage ou me faire sage comme une image sensuelle, charnelle. Comme l'autre, car je suis lune et soleil.
Et c'était Zaz, l'une ou l'autre, une de mes chansons favorites en ce moment. C'est la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu, et sur notre site internet sbs.com.au/french. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain. Thank you.
voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.